Nous allons donc essayer d'aborder un problème assez difficile au point de vue critique. Je lis d'abord les questions, je vois qu'il y en a quand même qui ont réfléchi sur ce problème. Je demanderai après s'il y a des autres questions. Cette expression « tingein » n'est pas employée chez Aristote à propos de la déduction, mais à propos du jugement portant sur des vérités supérieures, être incomposé. Le « tingein » semble donc dépasser le domaine de la simple conclusion ou du simple avoir de la raison et qualifier l'acte d'un jugement dans sa pointe ultime. Il faut savoir si le jugement est lié ou pas avec ce qui est précédent. C'est ça la question. Il qualifie, c'est très vrai qu'il qualifie non pas la déduction, le mouvement, le raisonnement, il ne peut qualifier que le jugement. Ça, on est tous d'accord. Il qualifie le vrai et son contraire est l'ignorance, et non le faux ou l'erreur. Le critère semble donc résider uniquement dans ce que touche l'intelligence ou son contenu. Aristote annonce malgré tout au livre Lambda que l'existence du premier des êtres, exemple de l'être incomposé, va être montré, deikmi. Faut-il distinguer ici, comme vous le disiez au dernier cours, le critère de ce qu'on peut montrer et le critère du tingein, même si les deux opérations coïncident au terme? Pourriez-vous développer cela et nous dire si cela n'éclaire pas un aspect de la théoria aristotélicienne? Vous avez bien compris, hein, j'espère. Non, merci, c'est très bien d'avoir fait ça. Vous voyez, faut-il distinguer ici, comme vous le disiez au dernier cours, le critère de ce qu'on peut montrer et le critère du tingein, même si les deux opérations coïncident au terme? Nous allons revenir là-dessus. La vérité est l'adéquation d'une énonciation avec la réalité. Si de la vérité on peut dire, comme du principe, on la touche ou on ne la touche pas, d'où provient l'erreur? Quels sont les facteurs qui amènent l'intelligence à porter des jugements faux? Donc ça c'est sur l'erreur, je la laisse de côté. Y a-t-il quelqu'un qui a réfléchi sur cette question du tingein, le toucher de l'intelligence? C'est pas la fine pointe de l'intelligence, mais c'est le toucher de l'intelligence. Voici, je reprends pour ceux qui n'étaient pas là, et pour que nous puissions réfléchir là-dessus, parce que c'est quand même intéressant, c'est toujours, au point de vue critique, la question de la vérité, et saisir les diverses modalités de la vérité. Et nous étions arrivés à cette question particulièrement importante quand il s'agit de la conclusion d'une démonstration a posteriori. Et donc, quand il s'agit de cette conclusion particulièrement importante, il est nécessaire qu'il existe un être premier que nous appelons Dieu. La conclusion des voies qui amènent jusqu'à l'existence de l'être premier, quel est le critère de vérité? Vous comprenez que le problème est très difficile. Dans le jugement d'existence, ceci est, je montre la réalité. La réalité est là, je la touche. Je la touche par l'intelligence. Et je la touche aussi en raison même que le jugement d'existence portant sur une expérience peut impliquer ce toucher physique. C'est évidemment pas le toucher physique qui touche le point de vue « ceci est ». C'est l'intelligence seule qui atteint l'être en acte. Et l'être en acte est absolument indivisible, il ne peut donc qu'être touché, atteint comme un indivisible. C'est bien cette théorie du tingein qui est le point de vue de l'indivisible. On comprend très bien pourquoi Aristote fait cette analogie avec le toucher, étant donné que les qualités des sensibles propres sont indivisibles. Donc il y a deux domaines de l'indivisible, hein, dans la connaissance. Je crois que c'est intéressant de rappeler ça. Il y a deux domaines de l'indivisible.
qui a des qualités sensibles et des sensibles propres. C'est-à-dire les sensibles propres. Les sensibles propres sont absolument indivisibles. Et deuxièmement, qu'est-ce qui est absolument indivisible? Il y a évidemment les principes propres. Quand vous atteignez l'ousia, vous atteignez
un principe propre de ce qui est. Ce principe propre de ce qui est indivisible. Il est évident.
Vous atteignez l'être en acte. L'être en acte est indivisible. Donc, deuxièmement. Troisièmement, est indivisible. L'être premier, acte pur, que nous appelons Dieu. Là, trois niveaux
d'indivisible. Vous pourriez faire, hein, faites-le si vous voulez pour vous, c'est toujours intéressant de faire ces parallélismes, les trois niveaux que nous donne saint Thomas par rapport à l'appréhension.
Confus, la cuidité des réalités sensibles et la ratio actus. Ici, je suis au niveau de l'appréhension. Ici, je suis au niveau du jugement.
Il y a un parallélisme qui est intéressant, qui est tout à fait... Faites attention, hein. Ne faites pas grossièrement, alors ce serait monstrueux. Il s'agit de comprendre ces choses assez curieuses que nous retrouvons comme ça, qui, au point de vue critique, demandent d'être regardées d'assez près. Quand il s'agit du jugement d'existence,
le jugement d'existence, c'est l'intelligence liée au toucher. Dit ceci est. Et c'est la réalité existante que je touche qui est mesure de mon affirmation.
Et si ce que je dis est conforme à la réalité existante, je dis ce que je vous dis là est vrai. Le problème de la vérité, conformité de ce que l'intelligence énonce avec la réalité. Voilà ce que c'est que la vérité. Bon, alors, je me suis posé, je ne vais pas revenir indéfiniment sur tout ce que nous avons vu, hein. Je me pose tout de suite le dernier cas,
lorsque, à partir d'une démonstration a posteriori, je pars des effets que je peux expérimenter, qui sont objets d'expérience, et que j'aboutis à l'affirmation, il est nécessaire qu'il existe un être premier.
Je me pose la question, quel est le critère de vérité de cette conclusion? Et vous comprenez que c'est important. Parce qu'au fond, en définitive, là, je justifie au plan critique la grande montée, la grande découverte de l'être premier. Est-ce que mon intelligence est capable d'affirmer il existe nécessairement un être premier? Et quand je dis ça, qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le critère de vérité de cette affirmation? Et en disant le critère de vérité de cette affirmation, vous comprenez que je précise le contenu exact de cette affirmation. C'est ça l'intérêt. Je précise, certains disent, je vais vous le rappeler, certains disent, cette conclusion, qui est le terme d'une démonstration a posteriori, son critère de vérité est logique. Donc l'intelligence ne dit rien sur l'existence de l'être premier. Elle est obligée uniquement d'un point de vue critique, d'un point de vue logique, à affirmer cela. Donc l'affirmation « il est nécessaire », c'est ça l'important. De poser un être premier, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Je me perds dans une affirmation d'une réalité transcendante que je ne sais pas du tout. à ce moment-là, bon, il n'y a plus de contemplation possible. La connaissance, quand saint Thomas affirme « J'ai une connaissance de Dieu, per modum causalitatis, per modum negationis, per modum eminentiae », le « per modum causalitatis », il est bien ici. Ça, c'est la connaissance « per modum causalitatis ». Et saint Thomas dit « J'ai une connaissance de Dieu, à la suite de Denis ». Ça, il est un théologien quand il dit ça. C'est intéressant de voir ça. Il y a bien une connaissance de Dieu, le « per modum causalitatis ». S'il n'y a pas du tout de « per modum causalitatis », la négation et l'éminence dégringolent, et donc pas de contemplation possible. Et donc j'aboutis tout simplement à dire, mon intelligence est obligée d'affirmer l'existence d'une réalité, mais c'est un X, je ne le connais absolument pas. Je ne sais pas ce que c'est, donc pas de contemplation, pas de réflexion possible. Je peux simplement affirmer, je ne peux pas demeurer dans le monde des réalités que je vois. Mais je ne peux pas affirmer plus. Alors là, vous voyez, ce serait uniquement regarder non plus le per modum causalitatis, du nouveau, du côté métaphysique, mais ce serait regarder le per modum causalitatis du côté logique. Alors, du côté logique, je dirais, je suis obligé de poser une réalité qui dépasse. Donc, je ne peux pas m'arrêter à ça. Je crois que c'est pas suffisant. Ça, c'est de regarder que l'aspect logique de la démonstration a posteriori. Je veux regarder maintenant le contenu métaphysique de cette démonstration a posteriori. Parce qu'il y a un contenu métaphysique. Ce contenu métaphysique, il nous est donné parce que je pars d'un jugement d'existence, je me sers du principe de causalité finale pour aboutir à cette affirmation, il est nécessaire qu'il existe un être premier. Donc il y a un contenu métaphysique. Mais ce contenu métaphysique, il est très difficile à préciser. Et quelle est la vérité de ce contenu métaphysique? La vérité de ce contenu métaphysique ne peut pas provenir d'un critère qui est extérieur à l'affirmation. Il faut toujours aller par mode négatif, hein, quand on est devant des difficultés. Il ne peut pas aller par un point de vue extrinsèque, parce que ça pourrait que ce contenu qui affirme l'existence de Dieu impliquerait quelque chose de plus grand que l'existence de Dieu qui mesure la vérité de cette affirmation. Ce qui est impossible. Donc si cette affirmation est vraie, elle doit avoir en elle-même son critère de vérité. Exactement comme la saisie des principes. Mais la différence de la saisie des principes, c'est que la saisie des principes implique une évidence. J'ai donc l'évidence que je saisis un principe. Et le critère de vérité, il est à l'intérieur même de l'évidence de la saisie du principe. Tandis qu'ici, j'affirme quelque chose qui me dépasse complètement. Donc je n'ai pas l'évidence. Je n'ai pas l'évidence de l'existence de Dieu. Même quand je l'ai démontré. Je n'ai pas l'évidence de l'existence de Dieu. Je suis obligé de reconnaître que ce que j'affirme, le contenu de mon affirmation, il est nécessaire qu'il existe un être qui soit acte pur, que nous appelons Dieu. Je n'ai pas l'évidence de ce contenu. Et pourtant, ce contenu ne peut pas avoir de mesure en dehors de lui. Alors, j'ai l'air d'être complètement coincé. Je crois, faut bien saisir ça, faut bien saisir qu'on est devant une espèce d'impossibilité. Quand on réfléchit, on dit oui. Logiquement, je vois la nécessité. Métaphysiquement, le contenu que j'affirme m'échappe complètement. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, je crois que nous pouvons dire, en raisonnant d'une manière analogique avec l'induction, ce qu'on avait dit, on peut dire que le critère de vérité de cette affirmation est bien à l'intérieur même de cette affirmation. Il n'est pas extérieur à cette affirmation. C'est cette affirmation qui elle-même porte sa vérité, exactement comme l'affirmation des premiers principes. Il peut y avoir des critères secondaires. Le critère secondaire, c'est tout simplement de revenir sur la démonstration. Et ce critère secondaire est intéressant, mais c'est pour simplement pour montrer que cette affirmation, en effet, me donne l'évidence de l'être en acte, puisque je pars de l'expérience, me donne l'évidence de la nécessité du principe. Donc, j'ai une nécessité du côté du principe et une nécessité du côté de, et une affirmation de l'acte d'être. Et je vois que j'unis les deux. Donc, il est normal que la conclusion, c'est de dire qu'il existe un être nécessaire. Vous voyez, la synthèse des deux. Mais la conclusion n'est pas seulement la synthèse des deux. La conclusion va plus loin. La conclusion, c'est l'affirmation d'un être unique qui, de fait, est au-delà de tout ce que je peux saisir. Donc ce n'est pas seulement lier le point de vue de l'existence actuelle et le point de vue de la nécessité saisie par le principe et faire le cocktail des deux. Parce qu'à ce moment-là, je n'affirmerai pas quelque chose de simple. J'affirmerai quelque chose de composé. Il y a donc dans la conclusion quelque chose qui est plus que dans les prémices. Et ça, je crois que c'est très important de le comprendre. C'est le propre d'une démonstration a posteriori. Dans une démonstration a priori, la conclusion est mesurée par les prémices. Tandis qu'au contraire, dans une démonstration a posteriori, c'est-à-dire une démonstration qui part des effets pour affirmer l'existence d'une réalité première, le contenu de la conclusion va plus loin que les prémices. Il y a une découverte. Il y a une découverte d'un être qui s'impose à moi et que je découvre dans l'obscurité. Et que je découvre réellement. Et que je découvre dans l'obscurité. Mais il y a la découverte d'un être qui est plus que les deux points de départ. Le point de départ de l'expérience, le point de départ du principe propre de causalité finale. Tous ces deux points de départ, je les possède. Tandis que l'affirmation de cet être premier qui existe nécessairement, je ne le possède pas. Je suis au contraire dans une attitude de pauvreté absolue. Quand l'intelligence affirme l'existence d'un être premier, l'intelligence affirme qu'elle est toute relative à cet être. Et donc, elle ne le domine pas du tout. Tandis que quand je saisis un principe, ah, c'est une acquisition. Mon intelligence, d'une certaine manière, n'acquiert rien. Ça fait très curieux. Quand je conclue qu'il existe nécessairement un être premier, mon intelligence n'acquiert rien au point de vue de l'intelligibilité. Il n'y a aucun avoir. L'affirmation de l'être premier ne me donne aucun avoir nouveau au point de vue de l'intelligibilité. Mais cette affirmation m'ouvre des horizons merveilleux pour l'homme. Donc pour la volonté de l'homme. Mais pas pour l'intelligence, puisque je suis obligé d'affirmer que cet être, je ne le connais pas. Il m'échappe. Donc s'il m'échappe, je reconnais au contraire à ce moment-là la pauvreté radicale de mon intelligence qui est dans l'incapacité d'atteindre sa source. Du moins de l'atteindre, de connaître sa source. Elle l'atteint, mais elle ne la connaît pas. Alors c'est là où se pose la question de ce Tingei. Comment comprendre que par cette conclusion, l'intelligence touche une réalité nouvelle et que cette réalité nouvelle, elle la touche, mais elle ne la comprend pas. Ça, c'est très intéressant au point de vue du Tingei. Elle la touche et elle ne la comprend pas. Alors, essayons de comprendre maintenant, vous allez essayer de voir, hein. Je fais exprès apport divers pour qu'on essaie d'expliquer. Ce n'est pas commode. Comprenez la position de l'ontologisme. Dans toute position erronée, il y a quelque chose de vrai. L'ontologisme consiste à dire « Dieu est présent à mon intelligence, plus présent à mon intelligence que mon intelligence est présente à elle-même, parce que Dieu est mon créateur. » Ceci est parfaitement vrai au niveau de l'être, au niveau métaphysique, mais ce n'est pas vrai au niveau de l'intelligibilité. Donc, l'ontologisme confond le point de vue de l'être et le point de vue de l'intelligibilité. Il passe de l'un à l'autre et les confond. Si je ne suis pas ontologiste, que je veux garder le réalisme absolu, je dis, c'est vrai, Dieu est plus présent à mon intelligence que mon intelligence est présente à elle-même. Mais l'intelligibilité de Dieu m'échappe complètement. Mais grâce à la démonstration a posteriori, je dispose mon intelligence à être en présence de celui qui est caché, mais qui est intimement présent. Il y a donc un toucher dans l'obscurité. Et ce toucher dans l'obscurité, c'est tout simplement parce que Dieu est plus présent à mon intelligence si Dieu existe. Et ça, je peux le dire. Si Dieu existe, Dieu est plus présent à mon intelligence que mon intelligence est présente à elle-même. Puisque si Dieu existe, il est le créateur. Et donc il est le créateur de mon être, il est le créateur de mon intelligence et de ma volonté. Si donc, par la démonstration a posteriori, j'écarte les obstacles, et j'affirme, il existe un être premier que les traditions religieuses appellent Dieu. Mon intelligence s'ouvre donc dans ce qu'elle a de plus profond à cette présence. Donc il y a un certain Tingay. Mais alors, essayons de préciser. Vous voyez pourquoi? C'est en raison du contenu même de ce qui est affirmé. Parce que l'être premier, s'il est Dieu, il est le créateur. Je sais que je ne saisis pas son intelligibilité, mais je saisis sa présence. Donc, j'affirme qu'il existe. Et en affirmant qu'il existe, il y a un certain toucher. Mais alors, précisons. Alors, c'est là où me semblerait très intéressant, au point de vue critique, de préciser ce que représente le Tingay de l'intelligence. Je crois que l'intelligence est capable d'être unis d'une manière propre aux cinq sens. Il y a donc cinq modalités du Tingay. Et si je regarde ces cinq modalités du Tingay, je vais découvrir qu'en effet, le Tingay du jugement d'existence, le Tingay des principes propres et le Tingay de l'être premier sont chaque fois différents. Cinq modalités. Je vais essayer de comprendre avec vous. Parce que c'est difficile, il faut le découvrir, ça. Il faut arriver petit à petit à comprendre qu'il y a là cinq modalités de l'intelligence liée au Tingay. C'est très simple, il suffit de reprendre le langage métaphorique d'Aristote. Le toucher, c'est le Tingay par excellence. Donc, chacun des sens touche le sensible propre. Donc, il y a bien cinq modalités du Tingay. S'il y a cinq modalités du Tingay, il est tout à fait normal que l'intelligence, pour exprimer ce qui ne peut plus s'exprimer au niveau rationnel, mais qui ne peut s'expliquer que par la finesse de l'intelligence, l'intelligence va donc essayer de comprendre ces cinq modalités. Vous allez saisir. L'intelligence liée au toucher. Alors, nous sommes en présence de ce Tingay particulier du jugement d'existence. Ceci est. Et ceci, c'est très facile à comprendre. Là, c'est vraiment la première sens de ce Tingay. L'intelligence liée à la vue. Il y a un autre Tingay. C'est le Tingay des principes propres. Au niveau métaphysique. Quand je saisis l'ousia, je touche l'ousia. Et là, je comprends maintenant comment le critère profond du jugement, comment le critère profond du jugement qui saisit les principes propres, bien oui, c'est vrai, c'est la substance elle-même en tant qu'atteinte qui est mesure de mon jugement. Je précise ce que je n'avais pas dit l'autre jour. Mais grâce au Tingen, je peux le préciser. Il y a l'intelligence. Comme c'est difficile, hein, ces choses-là, parce qu'on ne les a pas beaucoup creusées. L'intelligence liée à l'ouïe. L'intelligence liée au goût et l'intelligence liée à l'odorat. Je crois qu'il y a vraiment cinq Tingen, cinq modalités. Eh bien, je dirais que l'intelligence liée à l'ouïe, c'est l'intelligence qui touche l'être premier. Et alors là, je retrouve l'intuition de Heidegger, c'est très curieux. Heidegger dit que nous ne pouvons faire qu'une seule chose, c'est d'attendre que Dieu nous parle. C'est très joli. On ne peut faire qu'une seule chose, c'est le philosophe affirme bien, mais il attend que Dieu lui parle. Vous voyez le Tingen de l'intelligence liée à l'oubli, l'attente de la foi. Il y a un toucher particulier, Louis. Un passage de Dieu. Alors, ça, c'est l'intelligence qui touche l'existence de l'être premier. Vous voyez, le toucher de Louis est tout à fait autre chose que le toucher de le toucher de l'intelligence avec la main. C'est grossier, le toucher de l'intelligence. Hein, c'est très grossier. Le toucher de l'intelligence avec la main, c'est très grossier comparativement au toucher de Louis. J'entends que tu viens. J'entends que tu viens. Je touche. Je vais devant. Vous voyez, pour les musiciens, c'est merveilleux. Par là, on voit comment l'intelligence liée à l'ouïe va être une intelligence qui devance. Les musiciens sont toujours un peu prophètes. Hein, toujours un peu. Ils devancent. Tandis que le sculpteur est beaucoup moins prophète, il touche. Tandis que l'autre, il devance. Et là, il y a quelque chose comme ça dans l'intelligence qui affirme qu'il est nécessaire qu'il existe un être premier. L'intelligence touche vraiment l'être premier en tant que cet être premier est présent. Mais je ne le connais pas. C'est peut-être le plus subtil. Alors, c'est le toucher le plus subtil. Alors l'intelligence liée au goût, le goût c'est moins subtil que lui, hein. Ouais, c'est moins subtil. Les gourmets, c'est moins subtil que le musicien quand même, hein. Que les musiciens soient gourmets, ça se peut. Alors à ce moment-là, ils font la comparaison entre le point de vue du goût et le point de vue de Louis. C'est quand même ce qu'il y a de plus subtil, hein. C'est Louis qui est le plus subtil. Et c'est le plus immanent, c'est à toucher dans l'immanent. Et c'est bien le toucher de l'immanence. Puisque Dieu est plus présent à mon intelligence qui est présent, et pourtant, je le touche, je l'entends. Vous voyez, je le touche en l'entendant. Mais il m'échappe complètement au point de vue de l'intelligibilité. Je crois que c'est ça qu'il faudrait développer. Alors, le toucher du goût, je crois que c'est la saisie des principes éthiques. Donc, du principe artistique. Et l'odorat, c'est le principe éthique. Vous allez comprendre. C'est vrai qu'il y a un toucher différent. Les principes propres, au niveau spéculatif, au niveau métaphysique, et les principes propres saisis au niveau pratique, c'est pas tout à fait la même chose. Au niveau pratique, c'est quoi? C'est l'idéal. C'est la cause exemplaire. Il y a un toucher de l'idéal. Il y a un toucher de la cause exemplaire. Et elle est à elle-même sa propre mesure. Autrement, elle ne serait pas cause exemplaire. Et au niveau de la cause finale, au niveau de la cause finale, c'est justement le point de vue du bien. Le bien en tant que fin. Alors, c'est le point de vue de l'odorat. C'est toujours lié à la finalité. C'est un toucher très particulier, l'odorat. Il est très subtil aussi. On est envahi par une odeur subtile. Alors, on est envahi. C'est très particulier. Et c'est un toucher. Alors, je crois que nous pouvons, vous voyez, serait développer, au point de vue critique, ces cinq modalités du toucher qui nous permettent. Il n'y en a pas d'autres, c'est ça qui est très curieux. Cherchez-en d'autres. Marie Bassin dit, tiens, c'est curieux. Très curieux que, de fait, il y a cinq modalités du toucher. Alors, vous voyez qu'au niveau métaphysique, c'est le point de vue de Louis, c'est la cause formelle. C'est évident que la cause formelle, il faut lier à l'œil, toujours. Toujours. Et la cause matérielle ici, c'est le toucher concret des réalités existantes qui sont mues, au-delà du mu, au-delà de la matière. Et la causalité première, Louis, c'est la présence de la présence. C'est la source présente de tout. Voilà les touchés, les différentes manières dont l'intelligence est capable, vous voyez, de se dépasser dans sa modalité rationnelle, et elle est en contact direct avec la réalité. Vous avez là le réalisme plénier de l'intelligence. Cinq manières d'être réaliste. Cinq modalités d'aller jusqu'au bout des exigences de l'intelligence qui touchent. L'intelligence touche le réel de cinq modalités différentes. Alors elle le touche grossièrement dans l'expérience, c'est évident, mais elle le touche subtilement, d'une façon, de l'intelligence même. C'est l'intelligence, de fait, a ces cinq touchés particuliers. Alors je peux les expliciter, c'est simplement métaphorique, ça, vous comprenez bien. C'est une manière d'expliciter ces cinq touchés. Et ça m'aide à comprendre que le toucher particulier de l'intelligence par rapport à la découverte de l'être premier, est un toucher qui se fait dans l'immanence. Et c'est vrai, c'est un toucher qui se fait dans l'immanence et dans la transcendance la plus grande qui soit. Mais c'est la transcendance que je touche dans l'immanence. Parce qu'il est plus présent à moi-même que je ne suis présent à moi-même. Mais ce toucher se fait sans aucune lumière. Il n'y a pas de lumière, mais il y a, pour l'intelligence, un repos. Un toucher, tous les touchés impliquent, tous les touchés de l'intelligence, tous les tingain de l'intelligence, impliquent un certain repos. L'intelligence s'appuie, touche, elle touche le réel. Et donc il y a un repos pour la vie de l'intelligence. Quand elle découvre l'existence de l'être premier, il y a un repos. Et c'est parce qu'il y a un repos, il y a un arrêt, parce qu'elle touche une réalité qui la dépasse complètement et qui est pourtant immanente à elle-même, que l'intelligence pourra ensuite chercher à contempler. Donc ce tingain est la condition sine qua non de la contemplation, mais n'est pas la contemplation. C'est le per modum causalitatis de saint Thomas. Je crois qu'on ne peut pas expliquer le per modum causalitatis de saint Thomas si on ne va pas jusque-là. On le répète, hein, ça c'est facile de répéter. On répète per modum causalitatis. Mais pour le saisir vraiment, il faut comprendre qu'il y a là quelque chose de très particulier, une présence. D'une présence de quelqu'un dont je ne connais rien du tout au niveau intelligible. Il est super intelligible pour moi. Donc, il m'échappe. Il m'échappe complètement. Tandis que quand je saisis les principes, pas du tout. Mon intelligence, alors à ce moment-là, est actuée. Je ne peux pas dire que par cette conclusion, mon intelligence s'actue de manière nouvelle. Elle affirme quelque chose qui la dépasse dans l'ordre de l'existence, mais elle n'acquiert absolument aucune nouvelle intelligibilité. Ceci, c'est très important pour nous faire comprendre que l'affirmation de l'existence de l'être premier ne modifie absolument pas mon concept d'être. C'est capital à comprendre ça. Parce qu'alors, à ce moment-là, je comprends que si cette affirmation de l'être premier ne modifie en rien mon concept d'être, mon concept d'être n'est pas Dieu. Et mon concept d'être n'est pas infini. Il est ouvert à l'infini, mais il n'est pas infini. Mon concept d'être demeure au cœur de toute ma métaphysique, mais mon concept d'être demande d'être complètement dépassé par l'affirmation de l'être premier. Voyez, comme il y a le dépassement des catégories pour atteindre les principes, il y a le dépassement du concept d'être et de tous les transcendantaux pour affirmer l'existence de l'être premier. Et l'existence de l'être premier se fait dans un jugement d'existence d'une manière extrêmement pure. Il y a le premier jugement d'existence scié et l'affirmation « il est nécessaire qu'il existe un être premier », c'est un jugement d'existence très pur, mais très pauvre. C'est pour ça que c'est un jugement modal. Il est nécessaire qu'il existe un être premier. Une fois que j'ai dit « il est nécessaire », je peux dire « il existe un être premier ». Mais vous comprenez que c'est toujours en dépendance de « il est nécessaire ». Je ne pourrais pas affirmer tout de suite « il existe un être premier », je ne peux pas, parce qu'il n'y a pas d'évidence. Tandis que la saisie des principes n'est pas du tout un jugement modal. C'est une saisie directe. Tandis que là, elle est toujours médiate. Je ne peux pas avoir une saisie directe. Je ne peux pas voir Dieu en face. Je ne peux voir que le dos de Dieu. Que de dos. Il n'y a pas moyen autrement. Je vois son passage, sa présence. Mais je ne vois pas autrement. Et là, je pourrais prendre ces symbolismes-là. On a tout à fait le droit de prendre ces symbolismes-là. Donc votre intelligence, en affirmant l'existence de Dieu, l'intelligence ne peut pas saisir directement et immédiatement. Il n'y a pas de face-à-face au point de vue philosophique. C'est impossible. Au point de vue philosophique, il ne peut pas y avoir de face-à-face. Je ne peux qu'être en attente. Alors ça, c'est vrai. C'est l'attente de celui qui sait qu'il est présent, mais qui lui échappe. Alors, je réponds à l'autre question, c'est la question de l'erreur. La vérité est l'adéquation d'une énonciation avec la réalité. Nous l'avons vu. Adéquation d'une énonciation avec la réalité. Avec la réalité énoncée par cette énonciation. Pas avec la réalité tout court. Avec la réalité énoncée par cette énonciation. Si de la vérité, on peut dire comme du principe, on la touche ou on ne la touche pas, d'où provient l'erreur? Faisons attention. La vérité, on ne la touche pas. On la reconnaît. La vérité est une adéquation. Ce n'est pas un toucher. Je touche le principe. Je touche la réalité, mais pas la vérité. La vérité, où est-ce qu'elle est? Elle est dans mon intelligence. Donc, vous voyez, la confusion ici, c'est ça. On confond le toucher de la réalité et la conscience que j'ai de la vérité. J'ai conscience de la vérité. La vérité est une relation. C'est une relation. Or, on ne touche jamais une relation. On la connaît, une relation. On en a conscience. J'ai conscience d'être dans la vérité. Lorsque je dis, cette craie existe. J'ai conscience qu'en disant ça, je dis quelque chose de vrai. J'ai conscience de dire quelque chose de vrai quand je dis la substance, l'ousia, est principe selon la forme de ce qui est. J'ai conscience de dire quelque chose de vrai, il est nécessaire qu'il existe un être premier. J'ai conscience. Ce n'est pas un toucher. Le toucher, il est au-delà de la conscience. Il est la fine pointe de la conscience. Et il est au-delà, vous ne l'énoncez plus. Vous acceptez que l'énonciation est dépassée par le toucher. Vous touchez la réalité. Et vous savez que votre legein, il ne peut pas être la réalité. Votre legein, il est vrai quand il est adéquat à la réalité. Et je peux dire que ce legein est adéquat à la réalité parce que j'ai touché cette réalité. Si je ne l'avais pas touché, je ne pourrais pas le dire. Et donc je pourrais dire, la vérité, je ne sais pas ce que ça veut dire. tous ceux qui n'ont pas touché la réalité avec l'intelligence disent la vérité, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et dès que l'intelligence a touché la réalité, l'intelligence peut dire la vérité, c'est l'adéquation de mon legame avec ce que ce legame signifie, la réalité. Et la condition sine qua non de la vérité, c'est ce legame, c'est ce tigène. C'est pour ça que c'est si important. Et ce tigène échappe complètement à la critique. On le touche, on ne le touche pas. Alors, vous voyez, c'est ça qui est dit ici. Mais alors là, une petite confusion. Hein. Si de la vérité, on peut dire, comme du principe, on la touche pas, j'ai dit non. C'est le principe qu'on dit ça, mais pas la vérité. D'où provient l'erreur? Mais justement, l'erreur provient que ce n'est pas un tingaye. Un tingaye, on le touche pas. Donc, il n'y a pas d'erreur. Tandis que la vérité, c'est une relation. Une relation, il y a deux termes. Et une relation, elle implique une composition. Et l'erreur provient justement du fait qu'on a mal relié les deux termes. Alors, le jugement faux provient de l'imagination. Si j'étais plus attentif au tingaye, je ferais beaucoup moins d'erreurs. Si avant d'affirmer, ça c'est évident, on peut faire ça, pas pour les examens. Parce que pour les examens, attendez, je touche. Alors après je pourrais affirmer que je touche, attendez le bon moment. Et alors ça peut attendre longtemps. Le tingaye, hein, j'ai pas encore touché, j'ai pas encore arrivé à toucher. Bon, heureusement que les examens ne vous demandent pas de le tingaye. Pour être professeur non plus, c'est encore mieux, n'est-ce pas? On n'a pas besoin du tingaye. Hein. On a simplement besoin de dire des choses à peu près correctes. Et de connaître ce que les autres disent. Alors si on connaît ce que les autres disent, on s'appuie sur l'autorité des autres. On dit Leibniz dit ça, Heidegger dit ça, Aristote dit ça, c'est suffisant. On est un excellent professeur. Mais on n'est pas un philosophe. Mais la critique, hein, on a le droit au point de vue critique de critiquer les professeurs. On a le droit, c'est même le devoir. La critique doit aller jusque-là. Parce que le philosophe n'est pas nécessairement le professeur de philosophie. Mais c'est le tingaye qui permet d'atteindre le réel et qui permet de comprendre les cinq modalités de la vérité.